Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio France Internationale et de Radio Foot International.
Manchester United, I think, big competitions to win.
Les Verts sont prévenus, José Mourinho joue pour gagner, ses hommes aussi, et il les attend donc de pied ferme à Old Trafford dans le théâtre des rêves, dans le théâtre de leurs rêves sûrement. Car comme au bon vieux temps de leur épopée européenne, les joueurs de Saint-Etienne retrouvent un grand club sur leur chemin, Manchester United, qui dispute comme eux la Ligue Europa. Et deux frères se retrouveront notamment face à face pour la première fois, Paul et Florentin Pogba. Le Real souverain à Madrid, les Merengues ont facilement dominé leurs adversaires napolitains grâce notamment à l'homme en forme de cette rencontre, Karim Benzema, qui aujourd'hui suscite bien des éloges après avoir égalé le record d'un autre buteur français en Ligue des Champions, Thierry Henry. Les Gunners, justement, humiliés eux à Munich par leur bête noire, le Bayern. Une excellente soirée pour les Bavarois, un cauchemar pour Arsène Wenger, qui ce matin concentre les critiques de la presse anglaise. Ses jours sont-ils comptés dans ce grand club qu'il a façonné en 21 ans? La presse anglaise croit le savoir. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets, honneur à une femme, Valentina Clemente. Bonjour Valentina.
Bonjour, ça va, Annie?
Notre consoeur, correspondante de la presse italienne sportive, il y a aussi Jean-Marie Lanoé de France Football. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour RFI, c'est le swag, toujours.
Toujours. Et puis notre ami commun de France Football, lui aussi, Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. Les supporters de Saint-Etienne sont donc déjà arrivés à Manchester. Mais les Verts seront-ils les plus forts ce soir sur la pelouse d'Old Trafford? En 16e de finale de la Ligue Europa, le club de Saint-Etienne a hérité d'une équipe qui a aussi une longue histoire sur la scène européenne, mais bien plus glorieuse, il faut l'avouer, que le club du nord de l'Angleterre. Donc celle de Saint-Etienne est un peu moins glorieuse. Et l'un des présidents de ce club du Forez, Roland Remeyer, en a bien conscience.
C'est un monument, c'est le club le plus riche du monde. Bon, avec un entraîneur aussi, pour moi, très grand entraîneur. Il est passé dans des grands clubs, donc on va affronter un gros club. Mais nous aussi, nous sommes un gros club. En France, c'est la Saint-Etienne qui a le plus de titres au niveau du championnat, 10 titres. Depuis 4 ans de suite, on dispute l'Europa League. Voilà, on est présent. Et justement, ce qui me donne des espoirs, c'est comment on a abordé cette deuxième partie du championnat. Voilà, si les joueurs sont bien présents, tous solidaires, on peut battre n'importe qui.
On peut battre n'importe qui, mais pour l'instant, on se réfère au passé, à cette rencontre qui rappelle des vieux souvenirs à certains, Hugo.
Moi j'étais pas né lors de la seule et unique confrontation en Coupe d'Europe entre les deux clubs. C'était en 1977. Vous en souvenez peut-être,
oui,
Jean-Marie,
oui.
Sans vouloir vous manquer de respect.
Évidemment.
Match du premier tour de la Coupe des Coupes, la défunte Coupe des Coupes, un partout à l'aller, Geoffroy Guichard.
Je croyais que c'était l'UEFA, vous voyez.
Ah, moi j'ai lu Coupe des Coupes.
J'ai l'impression que c'était les 16e de ces trois, mais bon.
Alors moi j'avais vu.
C'était ces trois aussi.
Bon, écoutez, je revérifierai. Je vous redis ça dans quelques minutes. En tout cas, il n'y avait pas eu de victoire, un partout à Geoffroy Guichard et défaite 2-0. Alors non pas à Old Trafford, c'est la première fois que les Verts iront à Old Trafford. Pourquoi? Parce que en raison du comportement des hooligans de Manchester United à Saint-Etienne, l'hooliganisme c'était un très sérieux problème.
Après le Leeds, après la finale de
à l'époque.
Leeds, ouais. Ah ouais, ça
commençait à monter. Été renversé et résultat, le retour s'était joué à Plymouth. Voilà, en Angleterre, donc défaite des Verts. Les Stéphanois ont disputé 6 matchs face à des équipes anglaises en Coupe d'Europe. Une seule victoire, c'était contre Liverpool en quart aller de la Coupe d'Europe des clubs champions 1977. On est juste après l'épopée de 76. Mais il n'y a eu au final que des éliminations face à Liverpool, face à Manchester United au début des années 80 contre Ipswich Town.
Ces vieux souvenirs, c'est palpable aussi du côté de Saint-Etienne, Jean-Marie, parce que finalement on sait qu'une des jolies finalement histoires du football français, elle est du côté du Forez.
Bah oui, mais Manchester, c'est, ça rappelle des mauvais souvenirs plutôt, parce que c'est le souvenir de la fin de la période dorée de Saint-Etienne. C'est vraiment 77, c'est le début de la fin, en fait, de la fin du mythe.
Oui.
Et donc, bah voilà, Rocheteau, il au retour, je crois qu'il avait remplacé André Barthélémy. Alors ça, si ça dit quelque chose au plus vieux.
Barthélémy, le massacre de la Saint-Barthélemy.
Oui, voilà.
Alors
ça,
André Barthélémy,
ça, c'est encore plus ancien. C'était un buteur de Angers que Saint-Etienne avait fait signer. C'était la grosse cote à l'époque, et puis ça a pas du tout marché. Mais donc, c'était le début, ouais, d'une période pas bien. Et puis, c'est vrai que ça venait en
Mais vous qui pour France Football êtes allé du côté de Saint-Etienne, là-bas, on l'attendait justement cette confrontation, parce que ces derniers temps, il le dit, Roland Remeyer, ça fait 4 ans qu'ils sont désormais en Ligue Europa, mais alors on a l'habitude de les voir partir plutôt en Europe de l'Est, face à des clubs un peu confidentiels parfois. Là, c'est quand même retrouver un des grands d'Europe.
Bah oui, et puis c'est assez marrant parce que la mentalité là-bas, parce que même les joueurs l'ont dit aussi, à la limite, j'ai l'impression qu'ils privilégiaient presque justement l'affiche et jouer un grand club à une qualification. Enfin, ils se disent, bon, bah, c'est pas grave si on est éliminé. L'important, c'est de jouer Manchester, c'est de jouer un gros club. Cela dit, moi, je pense qu'ils ont une petite chance, voilà, eux aussi, hein, certainement.
On va y venir.
Mais le gros match, c'est tellement important là-bas, c'est resté.
Je pense qu'ils n'ont aucune chance, moi. Excusez-moi de casser l'ambiance.
Non, mais on va y venir.
Ah, d'accord, allez-y. Il ne faut pas casser l'ambiance, jamais.
On va y venir. Non, mais bien sûr, parce que quelles sont les chances finalement de ces deux équipes, c'est important. Nabil, pourquoi vous dites
aucune chance, on n'a jamais aucune chance. Il y a 48 heures de ça, le Paris Saint-Germain pouvait battre le Barça, mais personne n'aurait dit qu'ils allaient gagner 4-0, par exemple, dans le football.
Exactement. Et dans cette émission, parfois, on est obligé de faire des mea culpa, parce que mardi, on n'a pas été très tendre avec ni Unai Emery, ni le Barça. Paris Saint-Germain, et le lendemain, on a fait donc une émission à l'inverse.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Moi, vous avez au moins l'honnêteté intellectuelle.
Je crois qu'on n'était pas les seuls à ne pas croire.
Non, mais Annie est très honnête intellectuellement.
L'honnêteté intellectuelle de le reconnaître et de le dire, parce qu'il y en a, Annie, je peux vous dire,
c'est le
même couloir.
Ils ont fait croire qu'ils avaient soutenu Emery depuis le début de la saison.
C'est-à-dire que depuis le début, ils sont dans le même couloir de nage.
Il y a très peu qui soutiennent Emery depuis le début de la saison.
En fait, ce n'est pas une question de soutenir Emery, même si ce n'est pas le débat. La méthode Emery, moi, j'étais, j'ai pas à la juger, on peut être d'accord, mais c'était son management qui me dérangeait. Mais ça, c'est une autre histoire, on va rester sur le match.
Restons sur Saint-Etienne, puisque Jean-Marie a un peu amorcé en disant, moi, je peux y croire, on va lui demander pourquoi d'ailleurs.
Voilà. Déjà, c'est fantastique. Déjà, c'est un plaisir de retrouver Saint-Etienne dans une telle affiche. Bon, Jean-Marie en partera mieux que nous, mille fois.
Merci.
Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ce soir, quand on regarde sur le papier,
c'est sûr.
Ça brille, quoi, du côté de Manchester United. Alors après, on a nous plein de réserves sur Manchester United, mais ce soir, c'est Pogba, c'est Martial, c'est Ibrahimovic, c'est Mkhitaryan. Et pour des joueurs comme Pajot, peut-être, pour Florentin Pogba, le frère, ce soir, c'est une finale de Coupe du Monde. Ces joueurs-là, ils ne les croisent jamais. Ce soir, c'est l'infiniment petit contre l'infiniment grand, comme dirait Blaise Pascal. Ils ont...
Je crois que c'était Matuidi.
Non, mais faut être honnête. Ce soir, c'est David contre Goliath. Autant le Paris Saint-Germain, c'était Goliath contre Goliath, mais on s'était trompé sur celui qui avait les pieds d'argile. Mais ce soir, Annie.
Bon, Zlatan, il les connaît en tout cas, hein, tous ces verts.
C'est l'équipe contre laquelle il a le plus marqué en carrière. Saint-Etienne.
Mais la beauté de ces matchs.
Alors, je précise que Valentina est en plus supporter des verts, parce qu'elle a des belles boucles d'oreilles vertes. Elle a un beau t-shirt, où il y a marqué Saint-Etienne avec une belle étoile.
Moi, je suis la représentation qu'on peut aimer les Verts aussi à distance des années, dans le sens que l'amour pour ces clubs...
Au nom de son passé.
Et aussi de son présent, dans le sens que ça ne change pas l'attachement que ces clubs portent vers les gens. Moi, je suis arrivée en France il y a 5 ans, je connaissais un peu Saint-Etienne, mais quand j'ai vu ici la ferveur, c'est impossible de ne pas s'attacher à ces clubs. Moi, je suis supportrice de Naples à la base, donc je me suis rapprochée au plus, au club qui rassemblait plus aux valeurs de foot que j'ai connu depuis toujours. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, c'est trouver ces clubs dans cette affiche. C'est très important et surtout est plein d'histoires. Chose qui fait le, comment dire, l'écart du foot.
Le piquant, oui, et le piquant de cette rencontre.
Il y a les Pogba, il y a Ruffier contre Zlatan, il y a une affiche dans un stade mythique. Qu'est-ce qu'on veut plus?
Ben, on veut peut-être plus, c'est une victoire, je sais pas. Alors, il y a une chose, on a évoqué la confrontation entre les frères, mais avant, peut-être Hugo, un petit clin d'œil, c'est sur ces rencontres de José Mourinho avec les clubs français, parce que justement, on se retrouve avec José Mourinho aussi match dans le match face à Christophe Galtier, hein, pour lequel Jean-Marie, vous avez beaucoup d'amitié.
Oui.
Et donc, Hugo, est-ce que c'est des rencontres heureuses en général? Pour Mourinho ou plutôt pour les clubs français?
L'histoire avait plutôt bien débuté pour les clubs français. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une défaite du Porto de Mourinho à Lens en 2003 en Europa League. Ça s'appelait plutôt la Coupe de l'UEFA à l'époque. Mais ils avaient remporté la compétition. Ils étaient passés, ils avaient remporté la compétition. Ouais. Derrière, ça s'est quand même plutôt bien passé pour Mourinho. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on se souvient donc de Porto qui gagne la Ligue des Champions en 2004 en battant l'OM en poule, en battant Lyon en quart de finale, en battant Monaco en finale. Il y a eu les confrontations entre Chelsea et le PSG l'année d'après avec Drogba qui va marquer au Parc, là encore ça s'était plutôt bien passé. Auxerre avait été battu également en phase de poule. Lyon avait été battu en huitième de finale.
Alors Mourinho, il est jamais avec les mêmes équipes d'ailleurs.
Ce qui avait permis au Real, à l'époque, au Real de Mourinho de
se qualifier.
De se qualifier pour les huitièmes de finale, hein, parce qu'à l'époque c'était un peu Arsenal le Real, hein, ça passait pas les huitièmes de finale. En revanche, la dernière rencontre entre Mourinho et un club français, c'est plutôt un mauvais souvenir, puisque c'est ce huitième de finale retour à Stamford Bridge entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Valentina, je ne sais pas si vous y étiez, exactement,
là-bas.
Avec le PSG qui passe à 10 contre 11
c'était
à Stamford Bridge.
C'était mythique, cette soirée-là.
C'était pas une défaite, mais c'était une élimination.
Émotion, je veux dire, ça partait dans tous les sens. Personne n'y croyait, surtout parce qu'avec les rouges des bras.
Mais est-ce que José Mourinho et disons l'épouvantail de cette soirée pour les Stéphanois, Jean-Marie.
Oh non, je veux dire, il y a pas d'épouvantail, les stats ou les trucs, le passé comme ça, c'est sûr que Mourinho doit mener, je sais pas, oui, 10 victoires à une, enfin non, je schématise,
mais
bon.
Les rapports de force ont rarement été très équilibrés.
Non, Mourinho Galtier, non, moi tout à l'heure je disais que Saint-Étienne avait une petite chance parce que j'observais que Manchester en championnat, si vous défendez beaucoup. Si vous venez pour beaucoup défendre à Manchester, ils ont du mal. Et il y a quelques petits clubs de première ligue qui ont joué comme ça, qui ont beaucoup défendu. Et Saint-Etienne sait très bien défendre. Alors on leur reproche parfois ou souvent cette saison, mais là pour le coup, on va peut-être pas leur reprocher. Donc ça peut se terminer en petite victoire de Manchester. Et puis après, il y a le chaudron.
L'autre théâtre des rêves.
Ouais, mais bon, après c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans cette composition stéphanoise. Il y a Florentin Pogba à gauche. Annie, je vais peut-être y venir, mais
on va y venir sur la confrontation, composition.
Non, mais la composition, juste un élément. Les clubs anglais, ces dernières années, mis à part Chelsea, ils n'ont pas forcément brillé en Europa League parce que c'est pas un objectif. Pour eux, l'objectif, c'est toujours la première ligue et ensuite même la Ligue des Champions pour certains. Mais là où c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, c'est que l'Europa League cette saison, Manchester United la joue réellement, parce que je rappelle que Manchester United est en course pour se qualifier à la Ligue des Champions. Elle n'est pas sûre de le faire via le championnat, mais elle peut, grâce à une victoire en Europa League, valider
l'objectif de Jean-Michel Aulas.
Ouais. Exact.
Et économiquement, ça serait pour eux une aberration de ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine, eu égard aux investissements qu'ils ont fait la dernière intersaison.
Effectivement. Et donc, la motivation du côté de Manchester United, on est sûr qu'elle y est, quoi.
Oui, c'est sûr, par rapport à cette compétition. Après, il faut savoir gérer. Peut-être aussi que tous ces mouvements, les supporters des Verts qui vont arriver, qui sont beaucoup, parce que là, c'est une autre histoire très importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les supporters, pour être là ce soir? Ça va donner quelque quid en plus qui peut donner à l'équipe l'envie de se projeter, de faire
de
un super
surpasser.
Match. Justement, Nabil a souligné les changements de position de Pogba.
Oui, il est bien à gauche.
Qui commence à travailler très bien dans une position qui n'est pas la usuelle pour lui.
Sauf qu'il a un phénomène en face de lui, Valentina, qui s'appelle Mkhitaryan, qui n'est pas le plus connu des 11 de l'autre côté. Pour le grand public, mais les puristes savent les qualités de ce garçon-là.
Bon,
il va à 200 à l'heure, il repique.
Il y a
son
une différence.
Et si vous me dites lequel je crains le plus souvent à Manchester United, je suis à deux doigts de vous dire que c'est lui.
Alors, dans cette confrontation, vous parliez de Florentin Pogba. Alors, il y a un Pogba peut en cacher un autre, puisque, ou plutôt, il y en aura un en face. Et c'est, voilà. Oui, ils sont deux, ils sont trois frères, effectivement. Mais là, en l'occurrence, on en aura deux sur la pelouse. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face. Et écoutons Paul Pogba, parce que ça l'a beaucoup amusé, cette confrontation, lorsqu'il l'a su.
J'ai appris la nouvelle. Mon frère m'a envoyé un message directement. On a rigolé. On a dit, mais c'est fou. Et il sentait, je le sentais.
Il y avait donc le frère qui a trouvé ça fou. Et que dirait alors leur maman? Eh bien, écoutons-la, Madame Pogba.
Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais pas me partager en deux. En tout cas, je souhaite qu'il n'y ait pas de perdant. Match nul. À l'aller comme au retour.
Bonne réponse.
Franchement.
Voilà, la maman, non, évidemment.
Très, très, très sincèrement, moi, si la maman
elle
nous
elle
écoute...
Elle peut pas choisir.
Si, elle doit le choisir, là, ce soir, Annie. Elle doit être pour Florentin. Florentin, il brille... Paul, il joue avec l'équipe de France, il a plein de matchs, il a plein de grands matchs. Ce soir, c'est le match plus de Florentin que de Paul, quelque part.
Maman ne peut pas choisir dans ses fils. Ah, ouais.
Théoriquement, elle ne peut pas choisir entre ses enfants.
La mienne n'a jamais choisi.
En tout cas, bien, celui que ça amuse, écoutons-le, parce que des fois, José Mourinho, il peut aussi s'amuser de cela. Eh bien, il en a parlé, José Mourinho, l'entraîneur de Paul.
On en a discuté, mais d'une manière positive. On en a même rigolé. C'est un clin d'œil sympa du destin. Je crois que c'est surtout maman Pogba qui se retrouve dans une situation délicate. Et c'est bien normal. C'est difficile pour elle de choisir son camp. Enfin, difficile, impossible de choisir son camp. J'ai appris de la bouche de Paul que sa mère espérait un match nul. Mais la semaine d'après, un fils sera heureux et l'autre triste. Mais dans le fond, ce n'est un problème que pour la maman. Les joueurs, eux, vont prendre plaisir à s'affronter. Paul est impatient et Florentin, certainement aussi. C'est une bonne chose.
Bon voilà, lui aussi, il pense que la maman ne doit pas choisir. En tout cas, c'est la première fois que ces deux frères, alors qui ont eu évidemment une enfance commune, et c'était à Roissy-en-Brie, hein, là où ils jouaient dans leur quartier, eh bien, ils vont se retrouver face à face.
Oui, finalement, ça boucle un parcours entamé pour les deux frères. Il y a assez longtemps, on entendait la maman des Pogba, elle les a vus partir assez tôt, hein, ces petits. Et d'ailleurs, la même année, en 2007, alors, à chaque fois pour partir en plus à l'étranger directement pour les deux aînés, Florentin et Mathias, post-formés au Celta Vigo. Paul, lui, il est parti au Havre avant d'aller évidemment à Manchester United. Après, je vous présente plus le garçon et son parcours. 26 ans pour les deux jumeaux du dessus. Mathias, je rappelle qu'il joue aux Pays-Bas, au Sparta Rotterdam. Florentin, lui, il est passé par Sedan en Ligue 2 avant d'aller donc à Saint-Etienne. Il y est depuis 2013 et maintenant il est arrière-gauche. Alors, je précise aussi que Florentin et Mathias sont nés à Conakry, ils sont internationaux guinéens. Florentin. Il a même porté Paul le brassard de son équipe
capitaine
de son équipe nationale. Paul, lui, il est né en France. Et les trois, à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, et les trois joueurs ont fêté leur première internationale en même temps. C'était en mars 2013. Les deux duos avec la Guinée, le petit avec l'équipe de France.
Et vous avez rencontré Florentin Pogba quand vous êtes allé à Saint-Etienne?
L'année dernière, tout juste il y a un an, j'ai rencontré Florentin pour parler un peu de sa famille. Voilà, parce que justement il y a Paul, mais il y a aussi lui et Mathias. Et c'était très touchant et très intéressant de parler avec lui aussi par rapport à la différence des choix par rapport à la Guinée. Et voilà, il a dit pour nous c'est normal. On a choisi la Guinée, on est né là-bas, donc c'était notre fierté d'aller jouer pour notre équipe nationale. Et on ne peut pas blairer les choix d'Paul parce que lui, il est né en France. Mm-hmm. Il a fait toutes les sélections avec la France.
Il a échappé à Luis Fernandez comme sélectionneur.
Voilà.
Qui avait donné le brassard à Florentin.
Mais c'est très intéressant le fait qu'eux, ils espéraient, Florentin, il m'a dit, j'espère un jour de pouvoir jouer avec Paul. Là, c'est soit il s'est retrouvé
confronté. Face à face, ouais.
Jean-Louis, hein, je le dis quand même au passage.
Jean-Marie, ce qui risque, on va se souvenir aussi, c'est de ce face à face Zlatan Ruffier, parce qu'il y avait eu ça en championnat de France.
Oui, Zlatan a fait beaucoup de mal au vert, puisqu'il avait fait mal aussi à Bayal Sal. Il y avait eu une altercation avec Paul Bess qui était assez rigolote aussi quand Paul Bess jouait à Saint-Etienne. Zlatan avait fait penser qu'il ne connaissait pas Paul Bess, il avait regardé ostensiblement son nom de maillot. Son nom. Et Paul Bess a fait la même chose de son côté, il a regardé le dos du maillot de Zlatan, c'était assez rigolo.
Et bien voilà, c'est le match de la soirée en Ligue Europa entre Manchester United et Saint-Etienne. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer cette fois la Ligue des Champions.
Priorité santé. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI, toujours et avec nos invités, avec Jean-Marie Lanoë, Nabil Djellit et Valentina Clemente, avec aussi Hugo Moissonnier. Et nous allons partir du côté de Madrid.
Chavez, pico del área, Carvajal, de Rosca, Benzema, gol, 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 para Benzema.
Une grande noche, porque hacemos un gran partido de todos y como marcó un gol, es muy importante para la confianza.
Et Karim Benzema a marqué. Diego Maradona assis en tribune, n'y a rien changé, même s'il était à la tête d'un groupe d'au moins 10 000 supporters italiens, napolitains oui. En plus, hein, Valentina.
Bah, on l'a entendu au début du match, le numéro des napolitaines, quand il y a l'hymne de la Champions, à la fin, c'est parti en des Champions, que même Cristiano Ronaldo, il est resté gelé sous les moments. Donc,
ben, oui. Les napolitains étaient venus en masse et ils voulaient le faire savoir. Il y avait même votre frère, paraît-il, dans
oui,
ce stade.
Oui. C'est vrai, il est parti hier de Rome. Ah
c'est lui qu'on a le plus entendu.
Oui, exactement.
Il a dû s'amuser. En tout cas, le buteur du Real, donc Karim Benzema, a été l'homme de la réaction des Merengues hier soir en signant d'abord l'égalisation du Real Madrid face à Naples qui avait ouvert le score. On le rappelle, d'abord 1-0 et puis un but de Insigne. Et ensuite, l'égalisation de Benzema. Et puis, l'équipe du Real s'est imposée sur le score de 3-1. Alors, dans le contexte qui entoure l'ancien Lyonnais, on va y venir et on en parle ici dans Radio Foot, eh bien Zinedine Zidane, il était heureux de persévérer, de toujours mettre Benzema et d'avoir en plus eu raison.
Au-delà de son but, parce que lui, pour lui, ça fait du bien de marquer. Tout le monde attend ça, et c'est vrai que pour un attaquant, en fait, de pointe, on attend qu'il marque des buts. Mais il a plus que ça, et enfin, il a montré comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses. S'il avait marqué un deuxième but, ça aurait été par hasard, parce qu'il a eu les occasions pour le faire. Mais surtout, ce que moi je retiens, c'est l'énergie qu'il donne aux autres, et ce gros match qu'il a fait. Dernièrement, il en a fait plus qu'un. Et c'est bien parce qu'en fait, les joueurs comme Cristiano, comme Karim, comme James, tous dans des grands rendez-vous, en fait, ils sont présents, quoi. Il n'y a pas de souci.
Alors justement, les grands joueurs sont présents aujourd'hui. Louange dans la presse espagnole. Il a réussi sa soirée, notre Karim Benzema national, Jean-Marie.
Il a bien fait parce qu'il commençait à manger pas mal, hein, le pauvre Karim. Là,
bon, il était pas mal blessé quand même.
Oui, non, oui, mais vous savez comment c'est en Espagne. Hein, vous marquez que 5 buts en Liga, ça y est, hein, on vous sort un autre avant-centre et vous n'avez plus qu'à décaniller.
Certains Morata, en plus, il est espagnol.
Ce que j'observe et... J'ai fait une observation qui va déborder sur d'autres sujets ultérieurs, mais Zidane a plus confiance en Benzema que Wenger en Giroud, et c'est bien de garder sa confiance contre vents et marées quand on sait qu'on a un mec de talent, quoi.
Quand on est sûr de soi, oui.
Voilà, donc c'est tout. Je veux dire, c'est une belle histoire. Je veux dire, n'importe quel buteur connaît une phase de repli, un peu où il marque moins. Le talent ne s'en va pas pour autant.
Et la confiance de l'entraîneur est très importante dans ces cas-là.
Bien sûr,
on se souvient de Laurent Blanc avec Cavani.
C'est une lapalissade, mais ça marche à la confiance. Les avant-centres, beaucoup. Et s'ils savent que leur entraîneur est derrière eux, c'est évident qu'ils vont pas trop réfléchir au moment du geste final. Ça, son coup de boule est vraiment très beau à Zidane.
Hugo, justement, en plus, très important ce but.
Important pour Benzema, parce qu'il y a peut-être une petite différence, petite nuance entre Benzema et Giroud, c'est que Benzema, c'est l'un des tout meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Ça fait peut-être la différence in fine. 51 buts pour lui, il devient le meilleur buteur français.
La différence in signe.
Pour Giroud, je trouvais Wenger, je trouvais que Wenger manquait de gratitude pour quelqu'un qui lui a enlevé plus d'une fois une épine du pied.
Effectivement, mais bon, là, Benzema, voilà, s'il faut mettre en concurrence les deux joueurs, c'est quand même la classe au-dessus. C'est donc l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions devant ce Thierry Henry avec 51 réalisations. Et il a un meilleur ratio, hein. Il faut quand même le signaler. Je vais pas vous embêter avec les chiffres, mais le ratio est...
Mais si, on peut s'embêter.
C'est
intéressant.
Hein. 0,58 buts par match pour Benzema, 0,45 pour Henry.
Je me suis amusé à aller chercher les buteurs français encore en activité, leur nombre dans Ligue des Champions. Nombre de buts en Ligue des Champions. Giroud 13, Griezmann 13, Lacazette 5, Gamero 2, Gignac 3. Bon, je rajoute le but de Warren. 1.
Ça fait qui ça?
Waro, qui a joué au Paris Saint-Germain, qui est à eux 6, Annie, ils sont à 37 buts, c'est-à-dire qu'à eux 6, ils font pas Karim Benzema. Ça situe quand même la performance de joueurs. Et Jean-Marie, vous dites un truc très juste. Alors, au bout de 5
matchs. On ne vous voit pas.
Excusez-moi. Au bout de 5 matchs, t'es sous pression au Real. C'est-à-dire que tu marques ou t'es mort. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est dans le club. Il est titulaire en pointe dans le club, peut-être le plus grand club au monde, c'est une certitude, mais
et
peut-être
la pression
le plus
maximale. Ouais.
Ça situe quand même le degré mental de joueur. Alors évidemment, il y a aussi d'autres questions ultérieures qui se posent. Moi, je comprends toujours pas, et je le dis ici, comment ça se fait que ce garçon est encore banni de la sélection française. Ça, c'est sûr.
Enfin, mais ça c'est un autre dossier.
C'est un autre débat, mais
c'est pas forcément lié au sportif.
Pardon ?
C'est pas forcément lié au sportif, ça a mis là on
oui, non, je
on,
sais
on
bien
chante ses louanges sur le plan sportif et on sait très bien que l'équipe de France.
Oui, après c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans, mais enfin, quand même il est meilleur buteur de la Ligue des Champions et son objectif, je vous le dis Annie parce que je me renseigne un peu, enfin bon, c'est pas très compliqué ce que je vais vous dire, mais c'est vrai quand même, son objectif c'est d'être sur le podium des buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Ronaldo et Messi. Rappelons qu'il a une offre stratosphérique à l'intersaison de Chine à hauteur de 30 millions d'euros, il est resté. Et son rêve, c'est de terminer sa carrière aux États-Unis.
Mais là, d'ailleurs, on parle de la rénovation de son contrat. Alors, on en parlait avant cette soirée. D'autant plus, là, ça va revenir sur... On sait que Florentino Pérez, c'est un joueur qu'il a toujours aimé. Mais Valentina, en plus, Zidane, non seulement l'a toujours soutenu, mais Zidane dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il fait briller tout le monde. Il nous fait tous jouer mieux. On l'a vu hier soir.
C'est pas juste un footballeur, c'est quelqu'un qui arrive à porter toute l'équipe devant, je veux dire. Après... Aussi les autres copains de son équipe, ils s'exaltent. Je veux dire, on a vu après aussi
le but de Casimir. Vous avez raison. Ronaldo, c'est un bonheur pour lui de jouer à côté de lui.
Mais oui.
Ronaldo, il s'est replié un peu plus. Il n'avait pas été les protagonistes. On a vu des autres protagonistes hier soir. Et c'est grâce à un travail d'équipe complète. Et Benzema, ça...
Il a tout donné le là dès le début du match, d'ailleurs, parce qu'il a failli marquer au bout de 20 ou 30 secondes.
Il a sauvé vraiment la tâche, là.
Il ne doit pas finir à un but hier. Il aurait pu finir avec un peu plus de réussite à deux buts. Il est disponible, il est mobile. Quand il est comme ça, quand il est à ce niveau-là, bon, c'est du top.
Tout le monde a remarqué. En tout cas, pour Marca, hein, le journal de Madrid, c'est une réponse de champion de la part de ces joueurs du Real Madrid. Cristiano Ronaldo n'a toujours pas marqué, mais bon, lui, on a peut-être plus de tolérance.
Passe,
hein. Passe décisive.
Ah, oui. Il y a le troisième but pour Kroos.
Il y a le dénommé Koulibaly qu'on connaît bien, qui est international sénégalais, qui est un super joueur. Hier soir, il a fait connaissance avec Cristiano Ronaldo. Ce qui n'enlève pas les grandes qualités de Koulibaly.
Bien sûr,
attention.
Bien sûr.
Mais c'est pour vous dire le niveau auquel il faut être face à ces gars-là. Koulibaly, tu lui fais pas. Hein. J'ai rarement vu se faire prendre comme il s'est fait prendre.
Oui, mais le problème, c'est que la défense de Naples, là, Albiol, il revient des blessures. Koulibaly, il revient de la Coupe d'Afrique.
Et Goulam, il revient pas de la Coupe d'Afrique parce que l'Algérie, ils ont rien fait.
Presque.
Mais Naples, ils ont été en dessous de ce que vous espériez. Valentina, on aurait pu espérer mieux alors que
franchement
en ce
moment...
Moi je suis pas d'accord Valentina, allez-y, j'ai trouvé
Valentina.
Pas mal du tout.
Alors, il faut dire, ils se sont pas laissés faire par le Real Madrid.
Non, ils ont failli marquer un deuxième but d'ailleurs.
Très important. On peut dire les buts d'Insigne, ça a donné un espoir très important. Après, ce que je remarque de façon négative, c'est les comportements de certaines au milieu. Je veux dire, Hamsik, il a fait la passe pour Insigne, mais après, il n'était pas au niveau d'être capitaine de cette équipe hier soir contre les Real. Parce qu'avec contre les Real, tu peux te permettre rien. Il n'y a qu'une faille. Après, une autre qu'il avait montré beaucoup jusqu'à maintenant et qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est Zielinski. Et hier soir, il n'était pas au niveau. C'est vrai qu'en face, tu as le Real Madrid, mais vraiment, l'équipe, tu as la sensation des moments qu'ils n'étaient pas là, qu'ils avaient la peur, qu'ils avaient...
Ils étaient impressionnés.
Oui, ils étaient impressionnés. Par contre, une prestation à souligner, c'est celle de Diawara, un jeune de 19 ans, qui il s'en fiche. Il y va.
Ouais. Comme
Kimpembe. Il est défenseur et là, il est aligné au milieu de terrain.
Oui. Non, il est
milieu de terrain.
À Bologne, la saison dernière, il était dans un milieu à trois avec Taider et un autre joueur d'origine africaine. Je le trouve un peu dur, moi, Valentina, très sincèrement.
Moi, je suis mon équipe, toujours.
Mais, alors, moi, je vais vous donner mon regard extérieur.
Elle est supporter de Naples, c'est pour ça qu'elle est un peu sévère.
Mon cœur peut parler aussi, Valentina.
Je suis juste. Dans le sens, il a dit la même chose hier soir.
Oui, mais Sarri, c'est l'entraîneur, il est dans l'exigence. Moi, très sincèrement, je trouvais que cette équipe de Naples était belle. Elle était joueuse et même quand elle était en difficulté, elle a toujours continué à jouer. Elle a essayé de ressortir le ballon propre à chaque fois. Vous avez parlé tout à l'heure de Mertens, d'Insigne. Franchement, ils ont posé des difficultés à la garde centrale du Real Madrid.
Dès le début. Ouais.
Vous parliez à juste titre de Diawara, qui est vrai étonnant de maturité au milieu de terrain, ce joueur d'origine guinéenne. Mais je crois qu'il a la double nationalité également. Il n'a pour l'instant eu aucune cape avec la Guinée, mais l'Italie, à mon avis, il serait bien inspiré de le prendre parce qu'il est hyper hyper intéressant, mais à fond, bon, après c'est son histoire personnelle. Et puis ils ont préservé leur chance, qu'on le veuille ou non, même si ça sera très difficile.
Ça,
ils ont marqué
important.
Un but et le retour, et ils le savent très bien, les joueurs du Real.
2-0 à San Paolo.
Je veux dire, Zidane même il a dit c'est pas fait, parce que là-bas à San Paolo il y a une chance et ça sera la guerre.
Est-ce que Maradona sera encore là dans les tribunes?
Moi, je pense.
Et Gareca.
Oui, bien sûr. Il y aura un grand partage. Je veux dire, l'effet qu'il y a encore une chance, et ça, c'est très, très important, ça donnera
un retour très chaud. Ce sera le 7 mars.
C'est une équipe qui a des qualités. Elle a manqué un petit peu de rigueur derrière, mais il y avait aussi une énorme pression. Vous jouez au Real, vous jouez face à des Ronaldo, vous jouez face à des Benzema, même s'il n'y a pas que c'est pas des petits CV en face, mais au départ, il y a quand même un écart de classe.
Oui, mais c'est dans ces sens-là, dans ces matchs-là, que tu dois mûrir et montrer qui était au niveau, parce que
mais en même temps
il manque d'expérience aussi.
Casemiro il met des buts de ballon d'or comme ils ont mis dans l'équipe.
Il y a beaucoup de choses, mais il faut regarder les détails, et les détails c'est que Naples il n'était pas à son niveau hier soir, et c'est dommage.
Pour les départager, qu'est-ce que vous en avez pensé? Jean-Marie,
on n'a pas envie d'être départagé,
de façon totalement neutre, je suis plutôt de l'avis de Nabil. Je trouve que c'est une équipe sympa. Qui joue, et donc effectivement c'est une équipe sympa. Alors être sympa, évidemment, quand vous dites ça, en général on n'est pas une équipe sympa en quand général, on arrive en finale de Ligue des Champions. On est plus que ça. Voilà, donc
il leur manque un petit peu de
maturité.
Mais
le match retour peut être sympa, il faut les faire. Donc là c'était l'occasion pour
le Real n'est pas à l'abri d'une contre-perf au retour.
C'est ce qu'ils redoutent, hein, c'est ce que dit très bien Zidane, effectivement. Eux, ils n'ont pas beaucoup l'habitude d'un quart de finale de Ligue des Champions à Naples.
Non, on n'a pas beaucoup l'habitude.
Il y a 30 ans, ils avaient été éliminés par le Real déjà.
Ouais,
et c'était alors l'équipe de Maradona. Voilà pour ce qui est donc de ces merengues qui ont impressionné donc tous ensemble derrière Karim Benzema.
The last 25 minutes was a nightmare for us.
The casualty having to leave the game at the same time as Koscielny. And Bayern are in again! And they've scored again! Trying to take the tie away. That's Thiago! Too much power for Ospina. Bayern too strong for Arsenal. Another Bayern Munich goal before the end. It's Müller!
Les 25 minutes de cauchemar d'Arsène Wenger, eh bien, ce sont ces 3 buts encaissés en 10 minutes sur la pelouse du Bayern Munich. Résultat 5-1 en faveur du Bayern. Alors, du côté, eh bien, de Londres aujourd'hui, on se défoule un peu dans la presse. On parle de the same old story. Toujours la même histoire, lit-on en une d'un journal, alors que d'autres parlent de la capitulation d'Arsenal à Munich ou encore de l'humiliation. Arsène Wenger apparaît toujours en photo, d'ailleurs, un peu abattu par le résultat ou par la joie des joueurs du Bayern. Et ce matin, du côté de Londres, eh bien, les voix se multiplient pour encourager le manager des Gunners à laisser la place à Arsenal. Une question, Jean-Marie, est-ce que c'est la déroute de trop du côté d'Arsène Wenger? Alors, je comprends très bien les rires de Nabil, parce que c'est vrai que depuis ces dernières années ici à Radio Foot, et notamment grâce à Rémi Ngono, on se gausse parfois un peu des erreurs ou des défaites d'Arsenal en se disant c'est toujours la même chose. C'est vrai que ces dernières années, malheureusement, ils sont toujours là, toujours en Ligue des Champions, et ils sortent, et malheureusement c'est souvent contre le Bayern en plus, Hugo, si je me trompe pas.
Oui, alors juste je rappelle qu'Arsenal, son dernier quart de finale c'était en 2000 2010. Et effectivement, il y a eu, la route a souvent été barrée par le Bayern Munich en 2013, en 2014. Et donc là, on
en
va
2017,
voir
peut-être.
Ce qui va se passer en 2017. 97% de chances de se qualifier pour, non, c'est plutôt, depuis 1971, 97% des équipes se sont qualifiées après l'avoir emporté 5-1 à domicile. Donc, autant dire que statistiquement, ça paraît assez plié. Globalement, sur les 5 dernières confrontations en Ligue des Champions, Arsenal a battu 2 fois le Bayern, mais ne l'a jamais dominé in fine.
Ne l'a jamais éliminé.
Voilà.
Ce qui enquiquine les Anglais, évidemment. Alors, j'ai vu une vidéo d'un supporter dire « Putain de dinosaure, il est fini !» Je cite. Hein,
qui, 67 ans.
Qui s'en aille.
21 à la tête d'Arsenal.
C'est sûr que ça fait de trop longues années maintenant que Arsenal est toujours à 3, 4e, ouais. se fait sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce qui m'a paru absolument intolérable, on va dire, vu d'Angleterre et vu des fans d'Arsenal, c'est la déliquescence de l'équipe quand Koscielny est sorti. Alors moi, je veux bien que ça leur pèse, que ça
sort la 49e minute. Hein,
mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas quelqu'un
qu'une équipe
derrière.
Repose sur un défenseur.
Il aurait même pu faire jouer Giroud arrière central. Je pense qu'il aurait peut-être été meilleur que celui qui a remplacé Koscielny. C'est quoi cette équipe complètement invertébrée d'un seul coup? Ça m'a paru. Je me suis dit, mais il y a plus rien, quoi. Il y a plus de plan B. Il y a un seul être vous manque et voilà.
Oui,
tout est dépeuplé, comme vous êtes Blaise Pascal.
Voilà. certes, il est capitaine. Certes, il est défenseur et il tenait la défense. Ah ouais, et après, ils prennent 3 buts, mais quand même.
C'est infernal.
Nabil.
C'est des enfants à chaque fois, dès qu'ils arrivent à ce niveau de la compétition. Vous parliez de Wenger tout à l'heure, Patrick Juillard me disait à juste titre, je regarde le match avec lui, on dirait un disque rayé. Enfin, c'est-à-dire, c'est à chaque fois là, le même refrain. Je suis désolé de le dire. Ensuite, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en perspective et en lumière. La saison dernière, normalement, quand les gros ne sont pas là, Arsenal avait une possibilité de gagner le championnat. Ils l'ont pas fait. Leur recrutement également, je le pointe parce que moi, je le trouve à chaque fois assez bizarre. Je ne comprends pas et je connais un peu les coulisses parce qu'en général, Wenger, c'est un pas devant, 3 pas derrière, il avance sur des dossiers, puis subitement il disparaît. Hier sur le terrain, il y avait Xhaka, 45 millions d'euros, désolé, bon moi je m'interroge. Il y avait également le joueur qu'ils ont pris, non il n'est pas rentré, Lucas Vázquez, mais peu importe, mis à part en gros, moi le seul joueur que je prends à Arsenal, je vous le dis directement, ils ont pris un Lucas Vázquez d'Espagne, mais qui n'était pas là. Seul joueur que je prends à Arsenal, c'est Sanchez. Alors lui, ok,
c'est lui qui a marqué voilà, d'ailleurs.
Lui, pas de problème, mais à chaque fois c'est la même histoire. Lui, c'est un contrôleur de gestion au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il est là, il surveille les comptes,
surtout,
il rend des bons comptes. Ah regardez, j'ai les bons comptes, mais avec des bons comptes, au bout d'un moment, tu gagnes pas quoi.
Et Valentina, on s'est aperçu aussi, il dit qu'il y avait que Sanchez, mais celui qu'on n'a pas vu, c'est Ozil.
Oui, bah.
Comme d'hab.
Ben
comme
oui,
d'hab à ce stade
mais
de la
on
compétition.
On disait peut-être qu'en terre allemande.
Il met des buts d'exception ouais. contre des clubs bulgares.
Non,
okay,
oui,
mais
il a
voilà.
des moments, des fulgurances effectivement, ouais, mais très rares.
Les problèmes, à mon avis, c'est que. Aujourd'hui, dans ces foot modernes, il faut du changement. Il faut changer. Je vais rien élever à Wenger, mais Arsenal a besoin d'un nouveau souffle.
Ouais.
Pour se mettre en marche. Parce que là, sinon. Bon,
Faut envoyer le chéquier.
On dirait qu'il a pas été acheté gratuit.
Attendez, mais l'année dernière, ils devaient prendre Kanté, ils se sont plantés. Kanté, ils devaient le prendre à Caen, ils ont pris Coquelin.
Ouais.
Et Wenger a dit à des gens que je connais, ouais, mais comment
non,
ça
mais
se fait que
Marez, il a été proche de.
Nabil. Non, ils ont fait semblant.
Nabil, j'y reviens, mais sa gestion de Giroud, je veux dire, alors on pense qu'on veut de Giroud, mais Giroud lui a marqué des buts hyper importants cette année. Il passe son temps à jamais l'aligner. Alors bon,
c'est gonflé. Hein.
C'est tout incrusté trop et.
Wenger, il fait comme François Fillon, il s'accroche.
Est-ce que c'est la faute de Wenger? Parce que hier, ici, où nous avions à votre place, tiens Nabil, il y avait Carlos Bianchi.
Ah ouais, alors attendez, c'est pas le même, c'est pas la même classe, c'est pas la même carrière.
Et puis c'est l'ami d'Alex.
Vous pouvez changer de chaise si vous voulez, mais en tout cas, ancien grand entraîneur, ancien grand joueur, et il nous disait la victoire. On parlait du Paris Saint-Germain. La victoire, c'est 80% celle des joueurs et pas celle de l'entraîneur. Est-ce que là, c'est 100% la faute de Wenger? Parce qu'on l'accuse aussi beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est de sa faute?
Mais c'est lui qui choisit les joueurs aussi. Excusez-moi, Annie.
C'est
lui qui fait les choix.
Les
managers.
Ouais, c'est un manager. Voilà, il incarne toute la stratégie sportive, ouais. voire un peu la stratégie économique
On pourrait lui pardonner sur le mercato. Le problème, c'est que ça se répète tout le temps.
Bah, attendez, mais c'est pas les 1-0 qui prennent des 5-1.
Oui, ils ont pris 10-2 contre le Bayern en 2 matchs.
C'est des qui prennent.
Le problème, c'est que ça se reproduit tout le temps. Et c'est vrai, ça fait 4-5-6 ans qu'on assiste
souvent
exactement au même scénario.
Équipes. Oui. Alors il y a eu Monaco, il y a l'incident Monaco il y a 2 saisons, mais souvent c'est contre le Barça, contre le Bayern. Là, ils finissent premier de leur groupe. Le Bayern finit deuxième. Ils trouvent quand même le moyen de tirer.
Bah, oui, mais je comprends les supporters.
C'est contre les PSG. Ils ont jamais fait rêver. On a vu deux fois dans la phase des poules. Ils étaient.
Ouais, et pourtant, ils étaient premiers du groupe. Ouais.
Ça me plaît pas, ça m'émotionne pas. C'est pas, il y a quelque chose qui ça passe pas dans cette équipe.
Justement, il y a même il y a des gens qui ont joué avec lui, qui sont maintenant consultants comme Lee Dixon et tout, qui disent, je ne l'ai jamais vu dans cet état. À mon avis, il est temps, il est temps de partir.
Ian Wright a dit la même chose.
Voilà. Ouais. Et alors, il y a aussi un éditorialiste de The Mirror qui lui ressent aussi, dit, je suis cette équipe depuis des années et là, c'est the biggest shame. Il dit la plus grande
ouais.
honte. Non, mais il dit parce que je veux que Wenger soit, qu'on se souvienne de lui pour tout ce qu'il a fait. Et est-ce que c'est pas ça aussi la limite, c'est que malheureusement de trop vouloir s'accrocher entre guillemets, après on va oublier ce passé glorieux des années des Invincibles.
Il vaut mieux partir ouais, en pleine gloire que
sortir.
De partir sur une longue déliquescence. Et c'est sûr que c'est ce qui lui pend au nez. Enfin, c'est ce qui va arriver.
Voilà. Après,
ils vont pas le virer maintenant.
Il arrive en fin de contrat.
Oui, il va laisser une image contrastée.
Il est sur la jante. Excusez-moi de faire du champ lexical du vélo. Il y a un moment, il faut.
La jante de qui? La jante de Wenger.
Non, mais voilà.
Bon.
Oui, je voulais juste rappeler quand même son. Allez, je vais me faire l'avocat de.
Allez-y.
Oui.
Allez-y.
Son palmarès. Trois premières ligues. Bon, certes, la dernière c'était en 2004, c'était l'année des Invincibles. Six coupes d'Angleterre, la dernière en 2015. Six Community Shield, une finale de Coupe de l'UEFA perdue. C'était en 2000, ça ne nous rajeunit pas. Et une finale de Ligue des Champions
2006.
En 2006. Et je crois que c'est la seule de l'histoire du club. Et il a sa statue devant les Emirates. Donc Wenger,
c'est quand même pas. Mais il a sa statue. Oui, pour jusqu'en 2006.
Faudrait pas l'abîmer.
Voilà.
Là, ça fait 11 ans de plus. Alors, que dire de la prestation du Bayern, Nabil? Le Bayern, 5-1, donc 94% de chance, nous disait Hugo, de se qualifier. Bayern Munich, on se demandait un peu, parce qu'en championnat, même s'ils sont premiers, même s'ils ont beaucoup de points d'avance, ils ont des performances un peu en dents de scie. Et Müller qui ne marquait plus, bien, marque hier soir. Ils sont là, les Bavarois.
Bah, moi, les trois équipes qui m'ont fait la plus forte impression sur. Voilà, c'est match aller, même si tout
en huitième.
C'est le PSG, c'est le Real et c'est le Bayern que je trouve que c'est fort. Alors c'est intéressant le Bayern parce que finalement ils ont les joueurs que le FC Barcelone devrait avoir aujourd'hui, quoi. Ils ont piqué les joueurs, quoi. Thiago Alcantara qui a été fantastique hier
face à
Arsenal. Arturo Vidal, un joueur hors norme mentalement, un box to box comme on en a rarement vu, le Chilien. C'est vrai qu'ils sont complets à toutes les lignes. Excusez-moi de faire le parallèle avec le Barça, Annie, mais regardez par exemple la charnière centrale du FC Barcelone aujourd'hui comparée avec celle du Bayern. Ils sont beaucoup mieux outillés. Et comme je le dis souvent, j'ai l'impression qu'ils ont pas la MSN, mais ils ont deux MSN. C'est-à-dire qu'ils peuvent être devant, une derrière. Voilà. Non, c'est pas ça. Elle est interchangeable. Eux, quand tu regardes leur banc, t'as peur. Là, ils ont mis Douglas Costa, Lewandowski, Robben. Ils sont capables de mettre Müller en pointe, de mettre Ribéry et de mettre Coman.
Je crois qu'il est déjà rangé.
Le Bayern à cette époque-là de l'année, enfin en Ligue des Champions, est souvent difficilement jouable. Hein. Ils ont souvent des errances durant les premiers tours. Puis après, on les retrouve.
Une fois qu'ils sont champions,
il n'y a pas de souci. Hein.
Il y a les travails de Carlo derrière, il faut
un entraîneur qui connaît un petit peu le sujet.
Oui.
Bon, alors d'un entraîneur l'autre, hein, et d'un club surtout l'autre allemand, c'est le Borussia Dortmund.
Mon préféré.
Voilà, ils ont joué, eux, c'était avant-hier soir, mais un peu épatés par le Paris Saint-Germain, on n'a pas eu le temps hier d'en parler. Ils ont perdu, c'était face au Benfica, c'était à Lisbonne, à Estádio da Luz, n'est-ce pas? Les jaunes et noirs, ils ont perdu, mais alors, Hugo, si on regarde les statistiques, ils ont été plutôt dominateurs sur l'ensemble de la rencontre.
Oui, juste trois statistiques et on va se demander comment ils ont pu perdre.
J'en rajouterai une quatrième.
Quasi 70% de possession. Alors la possession
ne fait pas tout,
loin de là. 14 tirs à 5. Alors là, on commence à se rapprocher un petit peu en termes de domination et 5 tirs cadrés contre 1 et puis un pénalty.
Et moi, j'ai noté 10 occasions nettes à 1. 10 occasions nettes. Alors moi, je suis l'entraîneur, je dis, bon les gars, dans le contenu du match, impeccable. Vous êtes en progrès, c'est source d'optimisme. Et puis, mais il faudrait peut-être être réaliste dans les zones de vérité. C'est incroyable qu'ils aient paumé ce match. C'est hallucinant. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il n'y a pas eu de match. Hein.
Je pense
qu'ils vont se refaire au retour. Hein.
Ouais, mais attention quand même à Benfica qui a une certaine expérience.
Oui.
du football. Alors moi, là, ce qui me surprend chez Benfica, c'est de voir toujours Luisão titulaire. Non, mais c'est sa carrière. Non, on en parle pas de ce garçon. Non, mais il a une carrière fantastique, quoi. Bon, après, c'est Aubameyang qui leur a coûté le match.
Ouais.
Alors,
ça arrive.
Alors, justement, Aubameyang,
il a une mauvaise soirée. Ouais. Tout le monde.
Bah, moi, ça m'arrive souvent les mauvaises soirées, Valentina. Je peux éventuellement arranger ça.
Je suis sûr que Aubameyang, il va faire la différence.
Tu domines, mais ne marque pas, c'est ça.
Nabil, est-ce que c'est le retour de la CAN qui peut troubler Pierre-Emerick Aubameyang? Mais non, il revient, le premier match, il ne marque pas en championnat, mais le deuxième, il marque. Et on se dit, bon, bah, finalement, il s'est un peu remis de l'échec des Panthères. Est-ce que vous pensez que c'est ça?
Oui, ça peut jouer. Bon, ça peut jouer psychologiquement, mais la CAN, en règle générale, ça rend jamais service aux joueurs en deuxième partie.
Mais lui, ça lui avait rendu service, souvenez-vous, quand il jouait encore à Saint-Etienne. Il était revenu, il avait marqué son premier doublé à l'extérieur et tout, donc ça l'avait dopé à l'époque.
Alors, j'espère que ça lui a pas coupé les jambes, parce qu'en général, ils refont une deuxième préparation avant la compétition et parfois.
Il y a aussi une petite polémique sur des interviews qu'il a accordées pour s'exprimer sur son avenir. Ça a pas plu
à l'entraîneur.
Oui, bah alors là, il traverse, bon, il traverse
10 occasions à une.
Ouais, enfin bon, il est à combien de buts là? Quand on voit le classement des buteurs du championnat, il est quand même là. Vous avez raison. Vous avez raison. Il traverse peut-être un petit trou d'air et il aura l'occasion sur le match retour.
Tout ça sera réglé devant le mur. Mais moi, je jaune et noir.
Après, je me méfie quand même de cette équipe de Benfica encore une fois. Il faut pas la sous-estimer.
Non, non.
Et à Naples, ils avaient bien joué d'ailleurs.
Ouais. Mais et puis un super attaquant grec, là, Mitroglou, qui est très bon. C'est un sacré renard, celui-là. Il ressemble à un des acteurs dans le film Les 300. Regardez-le avec une barbe. Il est impressionnant, quoi. On dirait un Spartiate, Les 300.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que on parlait tout à l'heure du stade de San Paolo de Naples, qui peut être très chaud parfois et encourager son équipe. Là, vous parlez de ce mur noir au Westfalen Stadium, n'est-ce pas?
Westfalen.
Oui, je parle pas allemand. Westfalen.
Non, oui, c'est
pas de marque. C'est ça.
Comment il s'appelle déjà?
Non, il a pas d'autre nom. Pour nous, c'est le nom historique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot. Merci beaucoup, Valentina, d'avoir apporté votre voix féminine à ce trio d'invités. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation. Et on se dit bien à demain pour le Café des Sports. Merci.
Autour de la question.